les revenus du patrimoine sont moins taxés à l'impôt sur le revenu que les revenus du travail. Donc il y a une baisse d'impôt sur les revenus du patrimoine par rapport au gouvernement Hollande qui avait augmenté cette imposition. Et donc on pourrait faire une partie du chemin en arrière et taxer davantage les revenus du patrimoine. Dans la période récente, on a constaté une augmentation du taux d'épargne. Ça veut dire que probablement les ménages qui ont le plus de moyens mettent de côté en ce moment. Et donc là, il y a une source de revenus potentielle.
Michael Zemmour, économiste d'université, explique plutôt bien la pensée qui traverse le gouvernement actuellement. D'un côté, il y a eu la réforme des retraites, la réforme du chômage, la réforme du RSA, et le gouvernement semble trouver que cela fait déjà beaucoup du côté des réformes. De l'autre côté, je vois se multiplier les articles qui parlent de la hausse des impôts, taxes et autres prélèvements sociaux en tout genre sur les revenus du patrimoine. C'est un message important car il semblerait bien que le gouvernement soit arrivé au bout de sa vie lorsque l'on parle de réduire les dépenses. Pourtant, tous les indicateurs côté dépenses sont au rouge. Concernant l'assurance chômage, tout le monde sait qu'il faudra y revenir. Concernant les retraites, si on admet qu'elles restent fixes, mais que la France est un pays bel et bien en décroissance, une fois que l'on retranche le déficit budgétaire, alors ça ne tiendra pas puisque le poids des retraites, qui est déjà de 14% du PIB, est voué structurellement à monter jusqu'à l'asphyxie des personnes qui travaillent. Et c'est la même chose pour la sécurité sociale, dont on sait bien que la taxe lapin, ou que sais-je, est très loin de faire une quelconque différence. Pourquoi ? Car dans tous les cas, si les fourmis ne procèdent pas à des coupes cigales, alors la dépense publique restera hors de tout contrôle. Aujourd'hui, les dépenses pèsent environ 60% du PIB. Pour vous donner une comparaison, la Suisse est environ à 35%. Cela signifie qu'en France, plus d'un échange monétaire sur deux est contraint ou ordonné par l'État. Cela signifie aussi qu'à ce niveau de dépenses, nous devrions avoir en France les meilleurs services publics du monde. Je vous laisserai juge en la matière. Donc, lorsque le gouvernement explique qu'il est à bout de souffle avec environ 20 milliards d'économies, on est très très loin d'avoir commencé la moindre réforme qui pourrait faire bouger significativement le poids de l'État dans le PIB. Mais avant de vous expliquer comment l'État va essayer de récupérer 30 milliards dans vos bas de laine, je vous annonce que j'ai rouvert les portes de ma formation patrimoniale Le Cockpit. Le Cockpit, c'est ma grosse formation sur la constitution d'un patrimoine solide autour d'une stratégie d'investissement qui vous ressemblera. Si vous restez en France, un patrimoine solide est probablement ce qui vous aidera le plus à supporter les conséquences de la situation actuelle. Pour accompagner la réouverture des portes, on relance la dernière version de notre formation patrimoine gratuite de 7 jours par email. Vous pouvez vous inscrire à la formation gratuite en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Reste donc 30 milliards d'euros à trouver en hausse d'impôts. Et là, en ce moment, c'est un peu la foire à la saucisse, comme l'a si bien dit Emmanuel Macron. Pour poser le contexte idéologique, comme le disent trois éminents économistes d'université, à distinguer des économistes de terrain qui gèrent des entrées et des sorties d'argent, que ce soit pour des fonds, des États ou le budget de leur famille, lorsque vous avez des déficits, cela signifie que les impôts ne sont pas assez hauts. Oui, c'est ce qu'affirment ces trois éminents économistes. Et je rappelle que la France est quand même le pays numéro 1 mondial de l'impôt.
Pas mal, non ? C'est français.
Alors oui, on pourrait me dire que ce sont des économistes d'université et qu'ils sont donc par nature très très souvent de gauche, donc plus prompt à l'impôt que notre président Emmanuel Macron, qui est censé être un peu de gauche, un peu de droite et donc un peu partout et nulle part à la fois. Sauf que voilà. Emmanuel Macron a enterré l'idée d'un budget rectificatif, car selon lui, il n'y a pas de problème de dépenses, mais un problème de recettes. Donc si on ne touche pas à la dépense, a priori, il faut imposer plus. Alors à quoi s'attendre en termes de hausse des impôts ? Le débat est agité, mais Bruno Le Maire a tenté de poser un cap pour ses argumentations de fiscalité en tout genre. Tout d'abord, il explique qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Alors précisons que dans son langage, pas de hausse d'impôt signifie probablement pas de hausse du barème de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, et probablement rien non plus du côté de la TVA. Pour autant, ce que nous autres Français classiques appelons impôt a une signification bien plus large, on va y revenir. Pas de taxe de rendement, ni de taxe exceptionnelle non plus. C'est une réponse à la gauche qui veut taxer les ultra-riches, dont les finances ne sont de toute façon plus accessibles à Bercy dans leur grande majorité. Donc ok, la fortune qui n'est plus en France ne sera pas taxée. Bien. Après, attention, car dans le langage politique français, riche, ça commence à 3000 ou 4000 euros par mois. Donc là, effectivement, la population des cadres sont encore imposables. C'est ce qu'a rappelé notre économiste d'université en introduction. Si l'épargne des cadres supérieurs a augmenté, alors elle est taxable. Ok, mais entre nous, on parle plus d'une population aisée que de gens vraiment riches. Autre point, il veut imposer les énergéticiens pour ne pas citer Total Energy à qui l'on reproche de faire trop de profits sans vraiment travailler. Je ne blague pas, je cite, « Nous voulons lutter contre toutes les rentes ». Alors oui, les Total Energy de France ont fait des profits avec la hausse du prix de l'énergie, mais il faut savoir que les cycles de l'énergie se déroulent sur 30 ans. Sur ces 30 ans, vous avez donc des phases de hausse, mais aussi de longues, voire très longues phases mornes. Or, si ces groupes ont de gros trésors de guerre, c'est bien pour faire face à ces cycles et à toute l'incertitude de leur business. D'ailleurs, si vous regardez le cours de bourse de Total Energy, qui est une entreprise bien gérée, on voit qu'il y a de longues phases où il ne se passe rien ou pas grand-chose. Un investisseur de 2005 aura dû attendre 2022 pour voir l'action s'apprécier significativement. Donc bon, expliquer à Total Energy que ce sont des rentiers, c'est un peu fort de café, car pour connaître un peu le secteur de l'énergie, je peux vous dire que ce type de société est tout sauf simple à gérer, et je ne parle même pas du côté géopolitique du business. Bref, je classe cette mesure de taxation des super-profits des énergéticiens dans la case populisme, qui pourrait à l'extrême affaiblir ces entreprises françaises qui ont pourtant le mérite de faire partie des grands groupes dont la France bénéficie énormément en termes de création de richesses. Bon, après, c'est pas dramatique non plus parce qu'avec leur super taxe de super profit des super entreprises, ils voulaient récupérer 3 milliards et cette année, eh bien, ça n'a donné que 300 millions. Donc en fait, pour l'instant, ça reste plutôt une super grosse ficelle.
Oh la vache, mais c'est nul !
De son côté, Gabriel Attal a expliqué qu'il ne voulait pas taxer l'épargne des gens, mais qu'il voulait taxer les rentes. Il a déjà écarté l'assurance vie et le livret A. Alors de ce côté-là, ne soyez pas rassurés. Le livret A et l'assurance vie finiront immanquablement par être touchés au nom de la justice sociale ou je ne sais quoi. Par contre, il est vrai que le capital confiance de la population dans ces deux produits d'épargne est très élevé et que les 4000 milliards d'euros qui s'y trouvent sont déjà considérés comme un collatéral par les marchés financiers lorsqu'il s'agit de prêter de la dette à la France, puisque les assurances-vie ont le cadre légal européen de Solvency 1 et 2 qui permet de bloquer les retraits si besoin à vitam aeternam en cas de difficultés financières des assureurs qui les gèrent. Or, si des assureurs rencontrent des difficultés, ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion de leur activité, mais à cause des contraintes légales qui les forcent à acheter de la dette nationale pour satisfaire leurs réserves obligatoires. Donc, si l'assurance vie n'est pas directement touchée tout de suite, c'est parce que vous êtes déjà le collatéral sur lequel la France compte lorsqu'elle explique au marché qu'elle aura de quoi payer sa dette si jamais il y a un gros problème. Dans ce contexte, il reste l'actif imposable préféré des gouvernements, l'immobilier. D'autant qu'il est de notoriété publique qu'Emmanuel Macron n'aime pas l'immobilier car selon lui, c'est un actif improductif. C'était son grand credo de 2017. Les investisseurs immobiliers sont grosso modo des feignants qui profitent d'une rentabilité de leur capital sans prendre de risques et sans travailler bien sûr. À ma connaissance, un tel secteur n'existe pas. Ou pour être plus précis, le seul endroit où vous pouvez mettre votre argent sans prendre de risque au-delà du risque sur la monnaie elle-même, c'est à la banque centrale à court terme. Donc tout rendement qui excède la rentabilité monétaire se justifie à un moment ou à un autre par un risque pris par l'investisseur ou par un travail effectué. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce constat, alors il existe un secteur dans l'économie où les repas sont gratuits. Un secteur où il suffirait de payer pour avoir un excess return sur le cash sans risque. En tout cas, au bout de 10 ans dans le bâtiment et dans l'immobilier, je peux vous assurer que les risques sont nombreux et le travail est également souvent très présent pour réussir à dégager un bon rendement locatif de l'ordre de 10% ou alors une belle plus-value. Il n'empêche pas moins que depuis 2017, les différents gouvernements d'Emmanuel Macron ont empilé les taxes et les réglementations contraignantes sur le secteur de l'immobilier. Création de l'impôt sur la fortune immobilière, contrainte des DPE, augmentation stratosphérique de la taxe foncière et j'en passe. Au final, le secteur de l'immobilier va très mal depuis 2021. Le nombre de transactions s'effondre et s'ensuit une crise du logement encore bien plus forte qu'auparavant puisque plus personne ne veut se lancer dans la location de logement ou alors dans les travaux de rénovation qui coûtent de toute façon trop cher par rapport à ce que le marché peut payer. Dans le fond, le prix du marché de l'immobilier, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a trois facteurs multiplicatifs. Le premier, c'est la richesse de la population. Plus les gens sont riches, plus l'immobilier d'un pays coûte cher. C'est assez logique. Ensuite, pour aboutir à un prix, il faut multiplier par le levier des conditions de crédit qui permettent d'acheter pour plus ou moins cher en fonction d'un même revenu de la population. Et à la fin, il faut bien évidemment une tension entre l'offre et la demande. Il faut que le marché soit fluide, circule. Puisque la France s'appauvrit avec 1% de croissance, mais 5% de déficit, soit 4% de récession, structurellement, le marché de l'immobilier en France est en moyenne à vocation à baisser. Ensuite, concernant les conditions de crédit, la remontée des taux et le durcissement des conditions de crédit accentuent la baisse des prix. Et enfin, la crise du logement accentuée par l'inflation réglementaire contribue à gripper les transactions entre vendeurs et acheteurs. Et en résultat, c'est à ce moment, en 2024, que le gouvernement se rend compte qu'environ la moitié des 20 milliards de déficit en trop pour aller de 4,9% de déficit à 5,5% est due à la chute des recettes enregistrées par le secteur de l'immobilier.
Ah bah c'est pas trop tôt !
Donc si jamais le gouvernement veut encore taxer l'immobilier, c'est possible. Mais à un moment, on se confronte à la fameuse courbe de l'affaire. Cette courbe nous dit qu'à un moment, quand on taxe trop, la rentabilité de l'impôt devient décroissante, car on détruit plus d'activités, ce qui représente un manque à gagner en impôts, que l'on est capable de taxer les activités qui survivent. Le problème est donc sérieux et honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent taxer une fois que l'on enlève des débats tous les sujets dont on a parlé. Il n'est pas impossible que l'on en arrive à une saturation de l'affaire sur tous les sujets. C'est pour cela que je me dis que les déclarations du gouvernement de rentrer en économie de guerre n'ont peut-être que pour vocation d'aller demander l'aide de la Banque Centrale Européenne pour financer le tout avec de la planche à billets au nom de la guerre. Et oui, car même cette histoire d'économie de guerre n'est pas sérieuse si on regarde les chiffres. Une fois que l'on compte, les dépenses militaires de la France seront d'environ 2% du PIB en 2024. Et 2% en termes de budget pour la défense, eh bien ça ressemble plus à un minimum syndical pour un pays en paix qui veut avoir une armée que pour un pays en guerre qui veut entretenir un conflit de haute intensité. Cela fait des années que j'entends ce chiffre dans les différents programmes de partis politiques de droite, et en 2022, le gouvernement prévoyait déjà d'arriver à 2% du PIB pour le budget de la défense d'ici 2025. Tout ça n'est pas sérieux et ressemble beaucoup plus à de l'esbrouf. Pour vous donner une idée de l'écart entre la réalité et les déclarations, la Russie a un budget militaire qui pèse 7% de son PIB, et au plus fort de l'histoire désastreuse de l'URSS, ce n'était pas loin de 30% du PIB qui était consacré à l'armée. Alors là oui, entre 10% et 30%, on est en économie de guerre. À 2%, objectivement non, on est plutôt dans de l'affichage de guerre. Par contre, je vois éventuellement le dernier gros avantage fiscal de la France qui pourrait sauter si le gouvernement se renie un peu. La flat tax de 30%. Mais bon, comme elle a été instaurée par Emmanuel Macron, ça m'étonnerait, c'est un peu sa réforme fiscale phare. En même temps, c'est le seul gros avantage fiscal de la France pour les gens qui gagnent très très bien leur vie. C'est grâce à cette flat tax et dans certains cas qu'un contribuable français peut payer moins d'impôts qu'un Suisse par exemple. Donc bon, à voir. Gardez bien en tête que la France, comme beaucoup de pays européens, est dans un cycle de déclin qui prendra fin à coup sûr, mais qu'il reste néanmoins à vivre. C'est un peu comme les dépressions, ce sont des phases obligatoires dans le cycle de vie des émotions, et quand on est dedans, il faut passer au travers pour rebondir. Allez voir cette vidéo où je vous explique comment ça se déroule ces cycles de croissance et de déclin pour les nations. Vous y apprendrez comment vous y adapter afin d'éviter d'être entraîné par des mouvements historiques dont vous n'avez pas à être tributaire.